Actes chapitre 17, et nous lirons les versets 1 à 15. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent contre tous les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes, puis s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Voilà, il serait difficile ce matin de ne pas penser un peu à la politique et à nos rapports avec les autorités. Il y a Paul qui, en 1 Timothée, nous demande de prier. Il dit « Nous devons prier pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. » Et on a déjà évoqué ce besoin de prier pour ceux qui sont en autorité. Mais on peut comprendre cette prière de l'apôtre Paul parce que sa vie n'a pas toujours été paisible et tranquille. Et nous voyons cela justement dans ces deux villes étapes de son voyage missionnaire à travers l'Europe et la Grèce, Thessalonique et Bérée. On voit qu'ici, c'était pas très paisible, pas très tranquille. Leur présence, leur témoignage a provoqué plutôt des agitations. Agitation, c'est le mot qui revient plusieurs fois. Et ce matin, regardez notamment le reproche qu'on fait aux chrétiens ici, en versets 6 et 7. Ce reproche qu'ils ont réussi à faire valoir auprès des autorités, des magistrats. Versets 6 et 7, et ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ces gens, ils bouleversent le monde. Alors pour nous, le mot « bouleverser » n'évoque rien de particulier, on le voit plutôt comme un compliment même. Mais pour eux, le choix de ce mot est électrique, très fort. Littéralement, ces gens, ils mettent le monde sens dessus, dessous. Peut-être la Bible de Jérusalem traduit le mieux. Ils disent « ces gens qui ont révolutionné le monde entier ». C'est-à-dire ils sont en train de les traiter de révolutionnaires. Ce que veut dire mettre sens dessous, retourner, révolutionner. Mais vous voyez maintenant le côté efficace, même pernicieux de cette accusation. Parce que à l'époque, être accusé d'être révolutionnaire pouvait être fatal. L'Empire romain était très vigilant, très sensible à tout ce qui était sédition, révolte, révolution. Et voilà, ils étouffaient immédiatement de telles choses. Et il faut se rappeler que tout le monde n'avait pas la potion magique de Panoramix et d'Astérix pour résister ces représailles brutales et efficaces de la part de l'Empire romain. Donc pour eux, la pensée, c'est qu'il fallait à tout prix garder la paix et la stabilité de l'Empire. Donc une accusation que ces gens sont des révolutionnaires, ça pouvait être fatal. Et quelque part, c'est toujours la carte que les adversaires des chrétiens ont joué, c'était la carte facile à jouer auprès des autorités romaines. Ils sont des révolutionnaires, ils croient à un autre roi que César. Et c'était la même carte qu'ils ont joué pour faire crucifier Jésus, si vous vous rappelez, pour pencher Pilate dans leur sens. Pilate, qui savait même que Jésus était innocent, cette accusation qui se prétendait être un autre roi, un roi qui prétendait au trône, comme ça, c'était trop fort pour lui et il a livré Jésus pour être crucifié. Donc, cette accusation d'être des révolutionnaires, d'être des hors de la loi, de vouloir agiter la société, une société qui veut la paix et la stabilité, c'était l'accusation très forte. Et finalement, ça a plus ou moins marché. Paul et l'équipe missionnaire n'ont pas pu rester longtemps ni à Thessalonique ni à Bérée à cause de cette agitation. Et quand on pense à l'Europe de nos jours, à la France de nos jours, encore aujourd'hui, un obstacle majeur pour la foi chrétienne, une inquiétude que les gens peuvent avoir par rapport aux chrétiens, c'est que voilà, cette foi chrétienne, finalement, elle n'est pas bonne pour une société laïque comme la nôtre. Elle n'est pas bonne pour maintenir la paix et la stabilité. Et que la foi chrétienne serait même dangereuse parce qu'elle risque de répandre l'agitation. Elle risque de bouleverser la paix et la stabilité de la société. C'est-à-dire, on a tendance parfois de traiter les chrétiens un peu comme des gens qui ne sont pas normaux, des gens qui sont un peu hors la loi, qui veulent chambouler, bouleverser, révolutionner les choses. Aujourd'hui, il suffit d'accuser une église de ne pas respecter les normes, alors les normes légales, les normes morales aussi, dans ces prises de position, et là, on a vite écarté le témoignage des chrétiens. Ces églises-là, ils respectent pas les normes de notre société, les normes de nos lois. Ils agissent contre les édits de César, de la République. En fait, c'est une carte qu'on peut toujours jouer pour freiner le témoignage chrétien, en tout cas pour chasser le témoignage chrétien de la sphère publique et la reléguer à quelque chose de très caché, de très privé, ce qu'on aimerait encore faire de nos jours dans notre société. Mais dans ce récit, je pense que Luc, l'auteur de ce livre, est soucieux de montrer que l'Évangile n'est pas si méchant que ça. Il veut montrer que le christianisme offre une vision du monde qui est noble, qui est cohérente et qui élève une société. Et on trouve plusieurs exemples ici parce que voilà, ils sont accusés d'agiter, de bouleverser, de révolutionner les choses. Mais Luc veut montrer que finalement la noblesse et la qualité, la distinction se trouvent plutôt parmi les chrétiens. Il dit, par exemple, ce verset, les juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils ont reçu, ils ont réfléchi, ils ont reçu le message de la Bible avec empressement. À Thessalonique et à Bérée, Luc nous donne ce petit détail intéressant que plusieurs femmes de qualité, de femmes de distinction, ont cru à ce message. C'est intéressant, mais il souligne que voilà, des personnes bien placées, des personnes de qualité, de distinction, ont eux aussi accepté ce message. Donc la populace, là, des hors la loi, c'était plutôt ceux qui étaient contre la foi chrétienne. Et des gens bien, des gens réfléchis, des gens de distinction, c'est eux qui ont considéré et qui ont accepté ces choses. Donc on va reprendre un peu ce reproche, cette accusation ce matin. Voilà, ils ont bouleversé le monde et on va voir d'abord ce qui est vrai dans cette accusation, ensuite on va voir ce qui est faux dans cette accusation et enfin on va voir ce qui est encourageant dans ce qui s'est fait ici. Donc ce qui est vrai dans l'accusation, ce qui est faux et ce qui est encourageant. Ces chrétiens, ils ont révolutionné le monde, ils ont bouleversé le monde. eh bien, il disait sur un ton de reproche et pour les faire arrêter, mais quelque part, il disait bien plus vrai qu'il le pensait, je pense. Et c'est vrai, c'est une réalité historique indéniable. Le monde a été bouleversé par ce message, ce simple message que Jésus est mort et ressuscité. L'évangile a vraiment mis le monde sans dessous dessous. Vous avez verset 3, Paul annonce son message, c'est pas compliqué. C'est un simple message, pas besoin d'un grand philosophe pour comprendre, mais voilà, le cœur de l'évangile, Paul vient, il explique, il établit que Christ, le Christ, devait souffrir et ressusciter des morts. C'est comme ça que Luc résume tout son ministère, tout son message. Et ça, quand on pense un peu à ce que ça voulait dire, le Christ, le Messie, ce que voulait dire ce mot, c'était un titre royal, notamment pour les Juifs. Le Messie, le Christ, c'est quelqu'un de royal, un roi. Et c'est pour ça que les chrétiens, effectivement, parlent de Jésus-Christ comme roi. On a chanté ce matin, « Règne en moi », on a évoqué Christ comme roi. Et donc, on comprend cette accusation, qui n'est pas fausse. Ils disent qu'il y a un autre roi que César. Donc, le Christ, un personnage royal, le roi, les chrétiens le reconnaissent comme tel. Mais ce verset dit, et c'est le message de l'évangile, le Christ, ce roi des rois, doit souffrir. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est ça qui est radical, c'est ça qui est bouleversant. Le roi de l'univers, le roi des rois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son pouvoir, il prend sa richesse, et qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il les sacrifie, il les met de côté pour sauver les autres, pour aider les autres, pour élever les autres. Et ça, ce message, les implications sont bouleversantes. Vous savez, chaque président ou chaque prétendant présente son programme. Il présente ses propositions, il présente ses engagements. Vous avez peut-être reçu ça dans la boîte aux lettres. Voici mes engagements, voici mes propositions. Alors Jésus, le jour qu'il a commencé, lui, sa campagne, le jour qu'il a commencé son ministère public, il a, lui, présenté son programme. Alors, il s'est mis sur une petite colline en Galilée. Il a rassemblé une foule autour de lui. Et puis, il a énoncé une dizaine de propositions. Voici ce que je propose pour mon royaume. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage. Ça, c'était le programme de Jésus, ça c'était son royaume, son économie, ce qu'il a proposé. Et effectivement, quand vous lisez ces choses dans le sermon sur la montagne, c'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers. Les valeurs ultimes de ce monde sont le pouvoir, le confort, la reconnaissance, la réussite, la survie du plus fort. Et Jésus prend toutes ces choses, il les met sens dessous dessus, et il offre une autre pensée. Et quand on regarde bien toutes les sociétés qui sont basées sur ces valeurs, le pouvoir, l'argent, la survie du plus fort, la réussite, et qui disent que c'est ça qu'il faut, c'est ça qui doit régir nos vies, c'est ça qui doit contrôler nos vies, c'est ça qui doit nous motiver, c'est ça qui doit dicter toutes nos actions, eh bien, ces sociétés-là sont vouées à l'échec. Et c'est ça, Jésus, à partir du moment où Jésus a venu, il a prêché son message, et puis il a incarné ses valeurs par sa mort et sa résurrection, il a révolutionné le monde, il a mis le monde sens dessus-dessous. Parce qu'à la croix, il a parfaitement incarné son propre message, il n'a pas été hypocrite. Il a dit « heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les miséricordieux ». Eh bien, à la croix, c'est ce qu'il a été de la manière la plus complète. Il a été affligé, il a été pauvre, mais il a été compatissant et miséricordieux envers même ses ennemis. Il a été humble, débonnaire, dans ces moments-là. Et cette pensée, ce message, avec toutes les implications, a bouleversé le monde. Parce que on n'a que regarder à travers les âges et à travers les cultures, partout les cœurs et les consciences des hommes reconnaissent qu'effectivement, il y a quelque chose d'encore plus noble, encore plus mieux dans le message de Jésus-Christ, que le roi de l'univers vient souffrir et vient nous sauver et puis ressuscite. Ça, c'est... On sait au fond que d'être contrôlé constamment et uniquement par le pouvoir, par l'argent, par cette recherche de reconnaissance, eh bien, qu'est-ce que ça rend? Ça rend jaloux, comme ces juifs ici, ça rend orgueilleux, ça rend méchant, ça rend agité. Et un système, une politique qui est basée sur ces valeurs-là, ben, ces jours sont comptés. À partir du moment où Jésus est venu et qu'il a fait ce qu'il a fait, les royaumes de ce monde, leurs jours sont comptés. Et c'est sûr, là, tous les rois, tous les royaumes peuvent se sentir fragilisés, menacés devant une puissance qui est autre. Ils n'ont pas un adversaire qu'ils peuvent juste battre avec l'épée ou avec l'argent. Ils ont quelque chose qui les échappe en Jésus-Christ, quelque chose qui est bien au-delà. Et c'était l'expérience de Pilate et d'autres. Que faire avec quelqu'un comme ça qui donne sa vie, qui pardonne, qui aime et puis qui ressuscite? Alors c'est vrai, cette accusation que ces chrétiens, avec leur message, ils ont bouleversé le monde. Ça c'est vrai, l'accusation est vraie. Mais après tout, est-ce un reproche ou est-ce un compliment? Le livre des Actes raconte justement cette croissance exponentielle de la foi chrétienne à travers le monde de cette époque. Et serait impossible d'expliquer une telle croissance si le message était faux, si c'était fabriqué, si c'était inventé, et il y avait quelque chose de vrai, de beau, de nouveau dans tout ça, qui ont gagné des cœurs partout. Donc oui, ils ont révolutionné le monde, révolutionné les pensées avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Maintenant, voyons ce qui est faux dans cette accusation. Et donc l'accusation, en quelque sorte, revient à dire que ces gens-là, cette foi chrétienne serait une trahison, une menace aux valeurs de César, aux valeurs de la République, si on était aujourd'hui. Quelque part, ils veulent faire comprendre aux magistrats que si les gens, si ces gens, ces chrétiens vivent leur foi, s'ils partagent leur foi, eh bien, ce serait déstabilisant, ce serait néfaste pour la société. Et puis aujourd'hui, on peut essayer de prouver ça assez facilement en montrant les guerres de religion, en montrant les conflits qui beaucoup viennent de nature religieuse, ou des arrière-plans religieux. Et donc on montre tout ça en disant, regardez ce que la religion, regardez ce que la croyance, un attachement aux croyances spirituelles ou religieuses fait pour la société, c'est néfaste. Mais nous croyons que cela est une accusation fausse, que la foi chrétienne est néfaste pour une société. Alors, puisque je n'ai pas encore terminé ce livre de Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, vous avez encore quelques droits aux citations. Mais lui-même, il n'est pas chrétien et il dit, voilà ce qu'il dit dans son livre, Apprendre à vivre. Quand j'étais étudiant en philo, on étudiait les philosophes grecs de l'Antiquité, Socrate et compagnie, et puis, paf, on sautait à Descartes et compagnie, c'est-à-dire 15-16 siècles après. Et lui, il dit, ça, c'est pas normal, sauter 15 siècles de pensée, de réflexion, de philosophie. La raison pour laquelle on saute, c'est que c'est chrétien, en tout cas un arrière-plan chrétien, est influencé par la Bible. Et lui, il dit, ça, c'est pas normal, parce qu'il dit que finalement, le christianisme, la foi chrétienne, a révolutionné, bouleversé des idées pour le mieux. Il dit, la foi chrétienne a radicalement changé le monde par sa pensée. La plupart des valeurs qui nous sont chères aujourd'hui viennent de la pensée chrétienne. Des idées qui ont aujourd'hui une importance majeure, des idées qui vont être reprises par la philosophie moderne et même par des athées, finalement viennent de la foi chrétienne, des chrétiens, du témoignage chrétien, de l'Évangile. J'aimerais parler de quelques-uns rapidement. La liberté de conscience, que l'on entend jouer un peu aujourd'hui, la liberté de conscience et puis la dignité de la vie humaine. Il faut savoir que ces idées-là, liberté de conscience et puis la dignité de la vie humaine, à l'époque, c'était des idées révolutionnaires, bouleversantes pour le monde gréco-romain qui n'avaient pas ça.
Parlons tout d'abord de la liberté de conscience, ce qu'on aime appeler la tolérance envers quelqu'un qui a un autre point de vue.
Souvent, on reproche les chrétiens d'être intolérants, de vouloir endoctriner des gens, de vouloir supprimer les libertés des gens, de vouloir empêcher la réflexion. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve ici, finalement. Ce qu'on trouve ici, ce passage, c'est ça que je trouve fort, ce passage félicite les Bériens, alors qu'ils ne sont pas encore chrétiens, ces Juifs à Bérée, ils les félicitent parce qu'ils n'ont pas tout gobé comme ça. Et ils n'ont pas été endoctrinés, ils n'ont pas été manipulés. Non, ce passage félicite leur souci de chercher la vérité, d'examiner les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et à force de chercher, à force de réfléchir, là, ils ont cru. Et en réalité, quand on regarde un peu l'histoire du monde, ce sont les régimes qui étaient les plus anti-dieux, les plus athées, ce sont ces régimes-là qui plutôt ont avancé par la manipulation, par la propagande, par le mensonge, par la manipulation. C'est ces régimes-là qui ont été les plus intolérants, alors que la foi chrétienne a toujours poussé les gens vers la tolérance, vers l'amour de l'autre. Parce que au cœur de la foi chrétienne, on a l'histoire de la croix, ce Jésus qui souffre à la croix, comme Paul l'annonçait. Et qu'est-ce qu'on y voit là? On voit un homme, on voit Jésus qui meurt pour ses ennemis. On voit Jésus qui aime, qui pardonne ceux qui sont contre lui. Donc ça, c'est l'ultime geste de tolérance. Le monde a été façonné, même par cette histoire de la croix, cet évangile, pour arriver un jour à vouloir pratiquer la liberté et la tolérance. Alors ce jour-là, Paul et Silas se trouvent en Europe, et bien ils ne bénéficient pas de la liberté et de la tolérance, mais un jour l'Europe l'aura, on en jouit aujourd'hui, grâce à l'influence chrétienne en Europe. Nous parlons un peu de la dignité de la vie humaine, c'est-à-dire les droits de l'homme, tout ça. D'où viennent les droits de l'homme? Qui décide quels sont les droits de l'homme? Qui décide ça? Si on pense que ça existe, les droits de l'homme, qu'il y a une certaine égalité par laquelle il faut traiter chaque être humain, qui décide de ça? Sans l'existence de Dieu, c'est finalement très difficile de répondre à cette question, d'où viennent les droits de l'homme? On pourrait dire, parce qu'un jour on les a votés. Qu'est-ce qu'on fait le jour où la majorité vote contre certains droits basiques? Ou on pourrait dire, ça existe parce que finalement c'est mieux pour notre société, c'est plus avantageux, c'est plus profitable pour une société de fonctionner avec les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas profitable de reconnaître les droits de l'homme? Pour Staline, c'était pas profitable. Ou même en Occident, pour les Blancs en quelque sorte, c'était à un moment, c'était pas profitable, rentable, économiquement rentable, de reconnaître les droits de l'homme des esclaves. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas rentable ou avantageux? Si c'est juste une société qui décide selon ce qu'elle veut, les droits de l'homme vont changer d'un endroit à l'autre. Finalement, il faut quand même un repère au-delà de tout ça. Est-ce qu'offre le message de la Bible? Et j'aime bien cette accusation. Il dit ces gens, et ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Il y a un autre roi que César, et là c'était une accusation, une reproche. Mais le fait que les chrétiens avaient un autre roi que César, finalement c'était la chose la plus salvatrice qui soit. Parce que si Dieu n'est pas notre roi ultime, forcément autre chose le sera. Ça peut être un César qui va lui réclamer l'adoration, ou ça peut être un Kim Song-il en Corée du Nord, ou ça peut être une idéologie, ça peut être une partie politique, et on dit, c'est-à-dire s'il n'y a pas Dieu qui nous offre son salut, sa protection, sa présence, forcément on va le chercher ailleurs, dans un dictateur, dans une idéologie, dans une partie politique. Mais si une idéologie devient notre Messie, notre roi, notre salut. Alors, on va commencer à voir tous ceux qui ne font pas partie de notre parti politique comme des criminels, des méchants, des traîtres, parce qu'ils sont en train de... Voilà, ils sabotent le salut. On va voir ce qui se passe. Supposons que la personne pour laquelle vous avez voté aujourd'hui ne passe pas. Est-ce que c'est la fin du monde? Si vous comptez sur un homme, un politicien, d'arranger tous vos problèmes, d'arranger la société, et qu'il ne passe pas, là c'est la fin du monde. Mais si vous ne comptez pas sur une partie politique, une idéologie, pour vous délivrer, vous sauver, et que ça ne passe pas, vous serez peut-être un peu déçu, mais votre espoir, votre salut est ailleurs. La réalité, c'est que les régimes qui ont supprimé Dieu, en pensant à aller vers une paix, une utopie, ces régimes, eh bien, ils sont devenus les plus brutales envers les autres, parce qu'ils se sont pris pour Dieu. Et avec Dieu, tout est permis. Je peux massacrer, je peux écarter tous mes adversaires, parce qu'il n'y a pas un autre roi au-dessus de moi. Et donc, finalement, la foi chrétienne offre un roi suprême, Jésus, un bon roi, un roi sage, qui protège une société de devenir brutale. Alors, nous voulons, nous, mettre notre espérance, surtout dans le Dieu vivant, pas dans un politique, un politicien, un homme, parce que nous croyons que le salut vient de lui. Donc, c'est ça qui était faux dans cette accusation, c'est que, quelque part, la foi chrétienne est néfaste pour une société, agite trop. Je dirais, au contraire, quand on regarde l'histoire, le message de l'Évangile a apporté plutôt la liberté, la paix, la stabilité dans les sociétés. Enfin, ce qui est encourageant, pour terminer, quand on lit ça, prime abord, on dirait que c'est plutôt décourageant ce qui se fait à Thessalonique et à Bérée, parce que la stratégie de ces Juifs était relativement efficace. Il y a une émeute, il y a une agitation. Les évangélistes, les missionnaires ont dû fuir. Ils ont été chassés de Thessalonique, et puis encore chassés de Bérée, dans les deux endroits, sans pouvoir rester longtemps. On apprend dans les premiers versets que le ministère de Paul auprès des Juifs a duré 3 semaines, 3 sabbats. Et puis verset 4 dit que quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux puis avec eux quelques méchants hommes de la populace. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre versets 3, 4, 5. Est-ce que c'était 3 semaines ou est-ce que c'était quelques temps? Visiblement, il y a eu le temps pour des non-juifs de se convertir aussi, mais probablement, il a pu rester pas très longtemps, hein, ni à Thessalonique, ni à Bérée. Alors, on dirait que c'est plutôt décourageant, ils ont réussi à étouffer le témoignage chrétien, et tant pis pour ces villes. Mais ce qui est encourageant, c'est tout simplement l'église de Thessalonique, par exemple. Parce que si vous suivez l'histoire racontée par Luc ici, et si vous complétez avec quelques détails de la lettre, la première épître aux Thessaloniciens, que nous avons aussi, eh bien, voici ce qu'on apprend. C'est que Paul, il est chassé de Thessalonique, il arrive à Bérée, il est chassé de Bérée, et donc il arrive à Athènes. Et il est rejoint à Athènes par ses compagnons, Timothée et Silas. Mais avant d'aller au... prochaine ville étape, il renvoie Timothée à Thessalonique pour savoir si qu'est-ce qu'il en reste de cette église. J'ai dû me tailler. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Eh bien, quand ils se retrouvent, Paul et Timothée, tout ça, Timothée apporte de bonnes nouvelles en disant ben, l'église à Thessalonique se porte bien. C'est-à-dire, malgré l'opposition, malgré un désir d'étouffer leur foi, l'église. Eh ben, ils avancent, ils croient, ils s'enferment et ils aiment. Et ça, c'est très encourageant. Ces villes-là, les villes des Thessaloniciens et des Bériens aussi, ces villes-là ont été révolutionnées pour de bon. Ces villes-là ont été bouleversées et on sait que beaucoup se sont convertis, comme dit le chapitre, et puis on complète avec les détails en Thessaloniciens. Il y a ce verset qu'on connaît bien, et Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis. Ça aussi, c'est une révolution personnelle. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Et ça, c'est ce qui encourage, malgré l'opposition, malgré ce désir d'étouffer le témoignage, de la considérer comme une agitation, un problème de la société, l'évangile reste une bonne nouvelle, reste une puissance. C'est comme une petite semence qu'on plante, et puis ça pousse quand même, ça grandit. Et c'est ce que ça fait dans ces villes. Quand ça prend, ça prend. Et c'est ça la bonne nouvelle, quand... pour quelqu'un qui se donne au Seigneur, quelqu'un aujourd'hui hein, qui se fait baptiser, on croit que quand Dieu entre dans une vie, malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré le désir de Satan, Paul reconnaît quand même la main de Satan dans tout ça, malgré tout ça, quand ça prend, ça prend, et l'évangile avance, les églises grandissent, les personnes marchent vers l'avant. Et ces vies-là, ce qui est encourageant, ces vies ont été bouleversées pour le mieux, pour le meilleur. Ils ont pu abandonner leurs idoles et ne pas vivre dans cet ancien système, l'ancien régime où il faut constamment rechercher pouvoir, argent, confort, réussite. Mais ils ont été transformés. Maintenant, ils peuvent vivre pour les autres. Ils peuvent vivre par amour, vivre en paix. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, on se réjouit ce matin surtout d'un jeune, un ado qui avance avec le Seigneur, et on voit tout ce groupe GPS, on voit les enfants, et on est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait dans la jeunesse. On a été interpellé, touché aussi par ce message, de quelques jeunes qui ont lancé un peu cette idée. Ils ont un site web qui s'appelle La Révolution. La Révolution. Et c'était des jeunes, l'âge de Clément, tout ça, qui ont lancé ça. Ils ont dit, nous voulons être des rebelles. C'est-à-dire, nous allons nous rebeller dans notre adolescence, mais nous allons nous rebeller contre les attentes qu'on met sur la jeunesse et sur les ados. Parce qu'aujourd'hui, les normes, ce qui est normal pour un ado, c'est qu'il traverse une période de rébellion, qu'il méprise ses parents, qu'il ne font rien de bon, qu'il gaspille son temps et son énergie dans les choses nulles, dans les jeux vidéo, tout ça. Et ça, c'est l'adolescence. Et eux, ils ont dit, nous allons nous rebeller contre ça. Et nous voulons lancer une révolution, donc d'où révolution, et pour que la jeunesse suive et sert Jésus-Christ, que nos vies soient bouleversées par le message de l'Évangile et qu'au lieu de gaspiller notre jeunesse et toute notre vie, nous le vivons pour le Seigneur. Et je rends grâce ce matin, justement, des jeunes qui veulent être des révolutionnaires, qui veulent bouleverser le monde, mais par la vérité, par l'amour et par la sainteté. Et ce message-là est plus fort que tout. Alors je dis, pour cette révolution-là, je dis oui, vive la révolution. Et que Dieu nous inspire à continuer à porter son drapeau haut et fort dans ce monde. Prions.